te vous bénisse. Père Céleste, c'est une grande décision ce matin, ce soir, qui vient d'être formulée dans le cantique. Nous voulons désormais que tu nous prennes par la main, que tu nous conduises, que tu nous enseignes, que tu nous montres toi-même le chemin, que tu nous aides dans nos combats, dans nos à surmonter nos obstacles. Que tu nous aides dans les victoires qui nous attendent. Ce sont des victoires que tu nous donnes alors que nous ne les méritons pas, mais tout cela c'est par ta grâce. Merci pour l'occasion que nous avons ce soir de nous assembler. Bénis ta parole Seigneur, bénis-la et conduis-nous dans ce qui se passera par la suite. Pour ce qui a été fait, nous espérons que cela t'ait plu, que cela a été fait d'une manière qui te soit agréable. Je te prie de pardonner les péchés de ton peuple, de tes enfants. Et pour ceux qui sont dans l'iniquité, que toi-même tu les redresses, que tu leur envoies un Nathan pour les remettre sur les rails. Quant à nous, quant à nous-mêmes, pour nos propres péchés, nous venons à tes pieds te demander pardon, ainsi que pour nos iniquités également. Bénissons, te demandons de bien vouloir proclamer ta parole ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons prié. Amen. Amen. Je vous bénisse. Avant que j'oublie, bon, demain, moi j'avais oublié, c'est pour ça que je vous le dis maintenant. Action de grâce. J'avais déjà fait un programme pour demain matin. Pour Liège, je crois que vous êtes tous informés, les funérailles du frère Thales se feront lundi. Lundi à partir de 10h. Nous allons lire dans Jonas, le temps est passé. C'est déterminé dans les temps. Je cherche quelque chose. Alors. On va lire dans Jonas les deux premiers versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Les trois aussi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, ou Joppé, c'est la même chose. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. c'est que bien souvent, nous avons des idées insensées, un peu comme celle-ci, croyant que l'on peut aller hors de portée de vue du vivant. Nous intitulerons le sujet Loin de la face de l'Éternel. C'est vrai qu'il peut détourner sa face de vous, mais cela ne l'empêche pas de vous voir. D'abord, Jonas fait mine d'obéir. Il va au port et s'embarque à Joppé. De là, il peut prendre un bateau pour Ninive ou pour Tarsis, c'est selon. Mais quand il n'avait pas envie d'aller à Ninive, il est entré dans un bateau pour Tarsis. Pour être sûr d'être hors de vue du Seigneur, il va descendre jusqu'au fond du bateau. Au moins là, Dieu ne va pas le voir. Verset 5, les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. À cause de sa désobéissance, certains marchands ont peut-être fait faillite. À cause de sa désobéissance, il y a eu des dommages causés à d'autres parce qu'ils étaient dans le même bateau que Jonas. Si nous sommes tous dans le même bateau, parfois à cause de la désobéissance d'un seul ou d'une seule, on peut risquer le naufrage. Parce que le navire est passé tout près du naufrage. C'est vraiment un non-sens de penser que Dieu ne nous voit pas. Et souvent, ce genre de choses se passe au commencement, tout est bien. Tout se passe très bien. Tout semble aller. Ça vous fait grimper à l'optimisme. Dieu ne voit pas. Quand j'arriverai à Tarsis, je demanderai pardon à Dieu. Mais bon. Ce sont des risques que l'on prend. Ça part et vous savez, quand je vous dis souvent, en tant qu'enfant de Dieu, si vous êtes dans le besoin et que vous voulez jouer au loto, je vais vous dire, tant que Dieu ne vous a pas poussé à jouer au loto, ça ne sert à rien. Dieu est maître du tirage au sort. Regardez, ils vont tirer au sort ici. Verset 6 d'abord, le pilote s'approcha de lui. Il était profondément endormi pendant que les autres priaient. Il savait très bien pourquoi la barque subissait cette tempête. Parfois, quelqu'un peut savoir très bien pourquoi certaines choses se passent dans l'assemblée. Pourquoi on subit certaines choses dans l'assemblée, il se le sait, étant responsable de la chose. Jusqu'à ce que, un jour, soit nous ne sommes pas des incroyants qui tirons au sort, nous disons juste à Dieu de faire ressortir la chose. Cela s'était passé du temps de Josué. Temps de Josué. Qui ça? Comment il s'appelle encore? Akan avait pris
le manteau de Shinéar, quelque chose dévoué par interdit, et il l'a caché dans sa maison, croyant que tout se passera bien. Et le comble, c'est que la faute d'Achan retombe sur tous les enfants d'Israël. Parce que dans Josué 7, il nous a dit les enfants d'Israël, alors que c'était Achan. Il nous a dit les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, il y avait peut-être plusieurs Achan, mais Dieu cible le véritable coupable. Fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma pas contre Achan, mais contre les enfants d'Israël. Et une possibilité ici, une des causes possibles également, c'est que ils ont eu facile jusque-là. Jusque dans Josué chapitre 6, ils ont eu très facile. Beaucoup trop facile. Ils ont déjà eu facile dans le désert. Ils ont eu facile sur la mer Rouge. Et les voilà maintenant en terre promise. Ils avaient trop facile. Donc Dieu ne verra rien. Ou bien c'était tellement facile, oui, c'est ce que je voulais dire, que ils n'ont pas jugé utile de se mettre ensemble et de prier avant de s'en prendre à la ville d'Aï. David avait beaucoup de défauts, mais quand il devait combattre, ça pouvait être le énième combat, ou le énième combat, il demandait toujours la vie de l'Éternel. Vous pouvez avoir eu plusieurs combats à votre avantage, mais le plusieurs plus un combat là, continuez toujours à consulter l'Éternel. C'est très important. Et Jonas, lui n'avait pas trop intérêt à consulter Dieu, puisque Dieu lui a dit où il devait aller. Désobéissance tout à fait délibérée. Et Dieu l'a laissé payer son billet. Dieu l'a laissé embarquer. Il aurait pu l'empêcher bien avant. Mais il l'a laissé embarquer. Il est parti. Et finalement, à cause de lui, Dieu fait souffler sur la mer un vent impétueux. Et il se leva sur la mer une grande tempête. Et la tempête va frapper le bateau. Si nous considérons que nous sommes tous dans un même bateau, nous subissons tous la tempête. Et ce qui est bizarre, c'est que nous voyons ici tout le monde, sauf lui, quasi tout le monde essaye une sanctification. Donc, il jette dans la mer les objets qui alourdissent, ce qui alourdit votre marche. Ils essayent de se rendre le plus léger possible, qu'ils ne soient plus appesantis par le péché. Mais lui, le coupable, il va dormir. Il ne se sent pas concerné. Mais ça ne se passe jamais sans conséquence. Et finalement, ils vont avoir l'idée, ils vont dire, cherchons qui a fait ça. C'était des païens. Qui est coupable de ça au milieu de nous? On va tirer au sort. Quand c'est entre eux, ça ne marche jamais. Mais quand Dieu veut quelqu'un, Dieu va désigner le coupable. Et on va voir qui est celui qui nous attire, qui attire sur nous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Oui. Mais quand il va être désigné, le sort est tombé sur lui au verset 8. Ils vont lui dire, alors il lui dit, mais dis-nous qui nous attire ces malheurs. Comment est-ce que le sort tombe sur toi? Dis-nous qui est responsable de ça. Quelles sont tes affaires? Qu'est-ce que tu fais comme affaire, comme business? Qu'est-ce que tu viens faire dans ce bateau? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Les hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient que Jonas fuyait loin de la face de l'Éternel. Vous savez, les autres dieux, vous pouvez fuir loin d'eux, loin de leur face, Baal ne vous verra pas. Mais pas l'Éternel. Parce qu'il leur avait, Jonas leur a dit, en fait, je fuis, je vais loin de la face de l'Éternel. Certainement, Dieu n'y est pas là-bas à Tarsis. Vous savez, il n'y a aucun endroit au monde où vous pouvez vous trouver sans que Dieu ne sache où vous êtes et ce que vous faites. Dans le psaume 33, il nous est dit ceci. Ce n'est pas parce que les gens du bateau ne vous voient pas, ou ce n'est pas parce qu'à l'assemblée on ne vous voit pas, que Dieu ne vous voit pas. Dieu voit. Si Dieu veut que ça sorte du secret, ça sortira du secret. Vous allez finir par croiser un diacre en mauvaise posture. Ou un autre frère en mauvaise posture. Il va vous voir. Et généralement, quand vous coincez quelqu'un en mauvaise posture, avant même que vous ne lui posiez des questions, lui-même, il se justifie. Dis donc, frère, je suis là parce que mais je ne t'ai rien demandé. Oui. Dans le psaume 33, le psalmiste dit ceci. Le verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Il t'amène à ça. Il voit tout le monde. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Il n'y en a aucun qui échappe à son regard. La conséquence de la désobéissance de Jonas, c'est un séjour de 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et quand il est dans le ventre du poisson, il dit lui-même, il est dans une profonde détresse. Il est dans une détresse. Au chapitre 2, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Comme je l'ai dit ici il n'y a pas longtemps, est-ce que ce poisson avait-il des dents? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a mâché Jonas? Je n'en sais rien. Ou bien il a avalé entier, je n'en sais rien. Mais que vous soyez avalé ou mâché, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Et justement, le fait d'être dans le ventre du poisson, 3 jours et 3 nuits, ça nous parle de la résurrection. N'est-ce pas? Et Jésus-Christ va dire justement, c'est le signe que je donnerai à cette génération méchante. Matthieu 12. La résurrection est un fait réel. Qu'importe de quelle mort vous êtes mort, dévoré par des lions ou par des poissons ou dans votre lit de mort, voire même brûlé, Dieu est Dieu. Et il peut ramener le corps du péché à l'existence pour le juger. Parce que le frère Abraham dit, c'est ce corps qui sera jugé au jugement dernier, pour ceux qui viendront au jugement dernier. Ceux qui sont en Christ, ils sont passés du jugement, n'est-ce pas, à la vie. Dans Matthieu 12, Jésus-Christ va parler de Jonas. Verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Car Dieu dit, « C'est un miracle ce qui s'est passé. » Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Et Jonas, il était mal embarqué parce qu'il dit, dans Jonas 2, il dit, j'étais dans la détresse. Dans ma détresse, verset 3, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Il dit même qu'il était dans le séjour des morts. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Séjour des morts, c'est exactement là où se trouvait ce riche qui est mort, n'est-ce pas? Dans Luc 16, voyons, verset 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Si les 3 jours et 3 nuits de Jonas nous parlent de la résurrection, c'est que Jonas est mort quelque part. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le riche, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il était dans le séjour des morts. Et Jonas nous dit qu'il a crié à Dieu depuis le sein du séjour des morts. Et il dit, je disais, au verset 5, « Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. » Dieu est merveilleux. Quoi que nous fassions en secret, quoi que nous fassions en cachette, on finit toujours par être découvert. Ça viendra toujours à jour. Ça peut prendre des heures, ça peut prendre des minutes, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Regardez un peu les procès qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Des choses qui ressortent, qui ont été faites, qui ont été commises il y a plusieurs années. Et qu'aujourd'hui, ça ressort. N'est-ce pas ? Tel prêtre, par exemple, coupable d'exaction auprès des enfants, eh bien, ça semblait être en cachette, mais des années plus tard, ça ressort. Parfois même, ça peut ressortir après votre mort, ce qui montre que Dieu jugera de toute manière. C'est le cas de celui qu'on appelait l'abbé Pierre en France, n'est-ce pas ? On en a fait même un buste, on a érigé une statue à son nom, en hommage à lui, et on l'a presque béatifié, et voilà que aujourd'hui, toutes les bêtises qu'il a commises sont ressorties. Beaucoup peuvent s'imaginer qu'il s'en est bien sorti, parce qu'il a échappé à la justice humaine, mais la justice divine, il n'y échappera pas. Oui. C'est ainsi. Chose que l'on fait en cachette, ça ressortira. On finira bien par le voir. C'est pourquoi il est convenable qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Il est convenable qu'on se repente avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il n'y a rien qu'on ait fait qui ait été fait loin de la face de l'Éternel. Tout s'était au vu et au su de l'Éternel. David, avec son problème, il croyait le faire en cachette. Qui l'a vu ? Personne. Qui le savait ? Son officier, qui lui était fidèle. Celui-là même qui l'a envoyé aller chercher Bathsheba. Personne n'a vu Bathsheba entrer chez lui. Personne n'a vu David et Bathsheba. Et non seulement cela, il y a toujours un événement qui se passe qui vous met un peu mal à l'aise. C'est justement après sa faute que voilà que Uri revient. Il vient du front et étant là, restant là, David dit, oulala, puisqu'entre-temps, Bathsheba lui a dit, écoute, je suis tombée enceinte. Et comme Uri est revenu, il voulait faire tomber ça sur la tête d'Uri. Il s'arrange pour que Uri rentre chez lui. Mais Uri dit non. Moi, je ne veux pas rentrer chez moi, rester avec ma femme, pendant que mes militaires sont en train de se battre. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui me disait ça en exhortant, bien j'ai lu cela quelque part, je ne sais pas. Mais c'est l'Esprit de Christ qui l'a pris. C'est l'Esprit de Christ qui l'a conduit. Il voulait rester quasiment en communion avec ses militaires. Alors, David a dû changer de plan. C'est là où la faute conduit toujours quelqu'un. Quand on a commis une faute et qu'on essaie de cacher, il nous arrive aussi souvent de changer de plan. il change le plan. Ben, puisque c'est comme ça, il envoie une note au chef d'armée là-bas sur le front et il donne à Uri la note, il dit, tu donnes ça à ton supérieur là-bas. Et voilà qu'Uri, fidèle qu'il est, il n'a même pas lu la note. Il est allé chez le général a lu, effectivement, il a mis Uri en première ligne. Et Dieu a permis qu'Uri soit tué. On peut dire, c'est injuste. Mais frère Abraham dit, David en rendra compte. De toute façon, je crois qu'il a déjà rendu compte. Parce qu'après, la vie, la tempête là, de Jonas, elle a soufflé dans la maison de David. Ouais. Et ça finit par sortir. Pourquoi est-ce que ça ressort? C'est parce que Dieu veut que ça ressorte. C'est la volonté de Dieu. Dieu dit, tu fais ça en cachette. Fais ça dans le secret. Moi, je le publierai. C'est le cas de l'abbé Pierre. C'est publié aujourd'hui. Vous voyez ? Dans 2 Samuel, chapitre 12. Je vais lire au début, je vais commencer juste au verset 9. La question que le prophète pose de la part de l'Éternel. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Dieu vous dit, ne faites pas ça, c'est l'iniquité ça, mais vous le faites quand même. Et David, dans le psaume 51, il reconnaît que sa faute, c'était une iniquité. En faisant ce qui est mal à ses yeux. Tu as frappé de l'épée Uri. Pourtant, ce n'est pas lui qui a frappé Uri de l'épée. Il croyait qu'en le faisant faire par quelqu'un d'autre, il n'allait pas être découvert. Le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Ouais. Quand ça ressort comme ça, c'est Dieu qui a voulu que ça ressorte. Tous ces procès que l'on voit aujourd'hui, quasiment en retardement, Dieu a voulu que ça se sache. Et aujourd'hui, on le sait. Des gens qui paraissaient comme des grands messieurs, aujourd'hui, tout est dévoilé à la face du monde. Et tout ce qu'ils ont obtenu en ce temps-là, eh ben, c'est oublié. Aujourd'hui, ils sont plutôt dans la honte de leurs méfaits. Nous ne voulons pas tomber dans cette honte-là. Pourquoi nous évitons de nous associer à cela, de faire ces choses-là en secret? David en a tiré une leçon. Il a compris, il a fini par comprendre. Il dit dans le psaume 139, verset 7, c'est en connaissance de cause que David parle. On vous dit toujours, il y a deux moyens d'apprendre, n'est-ce pas? Soit vous écoutez la parole et vous obéissez, soit vous expérimentez. C'est selon le choix que l'on aura soi-même fait, si on veut expérimenter effectivement les jugements de Dieu, eh bien, on peut continuer à faire ce que l'on fait, mais sachez, un jour, ça ne restera jamais impuni. Même si on doit vous enterrer aujourd'hui, si vous pouviez aller demander à l'abbé Pierre maintenant, je crois qu'il vous dirait cela. La mort n'efface pas ça. Psaume 139, verset 7, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Aux cieux, si je monte aux cieux, c'est évident, tu es là. Alors, je n'irai pas aux cieux, mais si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si David le dit, je me suis posé la question. Je crois qu'il a fait un petit séjour là-bas. Un peu comme Jonas. Comment le sait-il? Ou alors, c'est par inspiration? Mais David dit, si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, donc très tôt matin, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, donc tout à fait au bout là-bas de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Impossible de fuir loin de la face de l'Éternel. Si je dis, eh bien, je vais faire ça dans le noir, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Ce qui fait, lorsque des pensées traversent la tête de quelqu'un, l'esprit de quelqu'un, en élaborant des plans malicieux, en élaborant des méfaits, quand il médite et l'Esprit de Dieu le conduit dans ses passages, il finit par réfléchir et faire marche arrière. Parce qu'il se rend compte que Dieu le voit. Il se rend compte que Dieu le sait. Je ne sais plus, quelqu'un m'avait raconté ça une fois. Il était sur le point de faire quelque chose qu'il savait que c'était mauvais. Et il est allé à l'assemblée, eh bien, pendant la prédication, Dieu lui a parlé. Et le prédicateur ne savait pas Exact, ne savait pas du tout ce qu'il disait. Et frère a compris qu'il n'avait pas à faire ce qu'il voulait faire. Et il avait arrêté. Il ne l'avait plus fait. Et heureusement pour lui, parce que les choses avaient mal tourné. Parfois, il faut écouter ce que Dieu dit. Sinon, vous allez passer par des situations genre séjour des morts, par des situations genre de détresse, alors que Dieu vous a prévenu peut-être au travers de sa parole, soit vous-même dans votre lecture, soit en écoutant une prédication ou une exhortation. Un frère ou une sœur qui vous dit quelque chose comme ça, sans très bien savoir pourquoi il ou elle vous le dit, et s'en va, alors que c'est Dieu qui vous prévient. Et quand c'est une affaire qui vous concerne, vous comprendrez que c'est vous, même si c'est dit en parabole. Qui ça, David, dans sa faute? Nathan n'est jamais venu lui dire, voilà, tu as pris la femme du riz comme ça directement. Il a commencé par lui raconter une belle histoire. Où il n'a pas vu que c'était lui. Finalement, il dit, mais comment il dit ça encore? On peut revenir dans 2 Samuel 12. Après avoir satisfait ce voyageur, le riche a tué la brebis de quelqu'un. Alors, verset 5, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Ça, c'est Exode 22. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Vous voyez? C'est quand Nathan le lui dit qu'il finit par comprendre que c'était lui. Et David, il avait méprisé la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ce qui est dit au verset 9. La parole de Dieu lui a bien dit, la femme d'autrui ne touche pas. Il a méprisé cela. Eh bien, il a appris par expérience que c'est chèrement payé. C'est ce qu'on appelle apprendre par l'expérience. Comme les enfants, parfois, quand ils jouent avec le feu, vous êtes là toujours à vous tracasser. Ne touche pas, c'est chaud. Tu vas te brûler, ne touche pas, c'est chaud. Tu vas te brûler. Un jour, hein, laissez-le un peu. Laissez-le toucher le feu. Il va se brûler un petit peu. Il va hurler. Au moins, il va comprendre. Il y en a une dans la maison qui n'arrête pas à sauter sur le lit. Le lit est très haut. Mais non, arrête de sauter sur le lit. Arrête. Jusqu'à ce qu'elle soit tombée. Il ne faut jamais oublier qu'il y a un œil qui nous observe. Toujours. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, il y a un œil qui nous observe. L'apôtre Paul dit dans Romains 2, ne faut jamais mépriser la parole de Dieu. Ça va être un peu long, et puis on va terminer par là. Verset 17. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, amen, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui sais ça, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Il y avait un pasteur congolais qui était au Canada, qui a fait des bêtises. Et au Canada, il a été condamné. Il a fui le Canada, il est parti au Congo. Il est au Congo pour le moment. Croyant qu'au Congo, on ne saurait pas pourquoi il avait fui le Canada. Mais au Congo, tout le monde le sait. Tous les journalistes savent pourquoi il a fui le Canada. Oui. Et des journalistes canadiens l'ont quand même suivi jusqu'au Congo, lui ont posé des questions là-bas. Il a nié, mais on lui dit, mais si c'est faux, pourquoi tu as fui? Puisque les faits ont été établis. Il croyait faire ça en cachette. Ben, ça ne s'est pas passé en cachette. Un autre pasteur, lui, il avait fait des bêtises. Et il était dans le collimateur des personnes grugées dans la bêtise en question, des victimes. Alors, il est allé en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y avait de la famille de victimes là-bas. Et ils l'ont coincé là-bas, dans une maison quelque part, dans l'arrière-cour là-bas. Ils étaient 5 à l'entourer. Et ils ont commencé à l'interroger. Il répondait aux questions sans torture. Et nous, on lui a dit, mais tu vas passer un mauvais quart d'heure. Ici, on est ici en Afrique du Sud, si tu meurs, personne ne saura que tu es mort ici. Dieu l'a coincé. Surtout ne jamais faire des bêtises au nom de Dieu. Et en citant la parole de Dieu. Quand vous voulez en faire, éloignez-vous du nom du Seigneur. Et celui qui commet l'iniquité, il s'éloigne. Bien. Le nom de Dieu blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision. Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible. Mais ce que je voulais vous lire, c'est ceci, verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi ont naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra, voilà, au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Il t'amène à ça. Ces actions secrètes, Dieu lui-même les jugera. Ce qui fait, il est bon d'observer attentivement les voies qu'on emprunte. Si elles correspondent aux voies que Dieu veut que nous empruntions. Il est bon de bien regarder si nous sommes toujours dans sa volonté. Et surtout une chose, ne jamais mépriser la parole de Dieu. Ça, c'est l'iniquité. Il peut y avoir des péchés commis par ignorance, ça peut exister, mais jamais mépriser une parole divine. Dieu vous donne un ordre, il ne répétera pas l'ordre deux fois. Balaam avait demandé une fois la permission, Dieu lui a dit « rentre », il n'a pas voulu écouter. Finalement, quand il est revenu encore, il croyait que Dieu allait répéter son ordre. Non, Dieu lui a dit « vas-y ». Et quand il y est allé, la colère de Dieu s'est enflammée contre lui. Parce que quand Dieu vous parle et que vous avez entendu qu'il vous a parlé, Dieu sait que vous avez entendu. Et il sait que vous avez compris. Que Jonas a bien compris qu'il s'agissait de Ninive, mais pas de Tarsis. Peut-être qu'il avait pensé d'aller prêcher à Tarsis, amener des âmes à Christ là-bas à Tarsis, c'était tout aussi bien qu'aller à Ninive. Non, Dieu lui a dit à Ninive. C'était à Ninive qu'il devait aller. Que Dieu vous bénisse. Il nous est impossible d'aller loin de la face de l'Éternel. Par expérience, David nous l'avoue. Où irai-je loin de ton esprit? Où me cacherai-je devant ta face? Tes yeux parcourent toute la terre, sont fixés sur tous les fils de l'homme. Tu les regardes et leurs actions secrètes, tu les vois. Nous ne pouvons aller loin. Tout ce qu'il y a, nous voulons nous mettre devant ta face, devant toi, à tes pieds, te demander pardon pour nos pensées mauvaises, pour nos mauvais plans que nous méditons, pour nos méfaits, que tu nous pardonnes, que tu nous assistes. Le Juif dit que demander pardon et avoir l'idée de recommencer la même chose, le pardon n'est pas pour cette personne-là, c'est vrai. Si nous nous repentons, c'est pour ne plus recommencer. Que tu nous assistes, que tu nous aides, alors que le jour décline, alors que le grand jour s'approche, nous te demandons tout simplement ton assistance, ton aide, ton soutien, afin que nous allions de victoire en victoire. C'est notre prière ce soir, que tu bénisses tes enfants, te remettons notre chemin du retour entre les mains, que tu nous protèges, car celui qui va loin de ta face, il se prive aussi de ta protection, car tu es celui qui nous garde, qui nous protège, et tu ne veilles ni ne dors, dit David. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié et nous te remettons en journée de demain. Tu nous assistes. C'est en son nom merveilleux, ce nom merveilleux de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Je vous bénisse.